Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Après plus de 5 mois de guerre entre le Hamas et Israël, le Conseil de sécurité des Nations Unies est finalement parvenu à voter ce lundi une résolution pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza, tout en exigeant la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages. C'est une première. Les États-Unis, qui opposaient jusqu'à présent leur veto, se sont cette fois-ci abstenus lors du vote, permettant l'adoption du texte. Comment est-on arrivé à un tel accord et quelles sont les implications concrètes de cette résolution? Bonjour Alexandra Novoselov.
Bonjour.
Vous êtes politiste et chercheur associé au centre Thucydide de l'université Paris 2 Panthéon Assas. Alors on croyait le Conseil des Nations Unies paralysé. Pourtant, un accord sur un cessez-le-feu a bel et bien été voté. C'est un texte court. Qu'est-ce qu'il contient précisément?
Il demande ce cessez-le-feu. Très directement. Et il rappelle également l'urgence humanitaire et de laisser passer l'aide. Et puis, il prévoit un accord de plus long terme une fois le cessez-le-feu obtenu.
Bon, mais la semaine dernière, un texte pour demander le cessez-le-feu avait été refusé par la Russie et la Chine. Qu'est-ce qui a changé entre ces deux textes?
Le texte de vendredi ne demandait pas expressément le cessez-le-feu. Il envisageait la possibilité d'avoir un cessez-le-feu. Donc, ce qui a changé, c'est principalement ça.
Bon, on s'attendait à une abstention des États-Unis. Pourquoi ce revirement, Alexandra Novoselov?
D'abord, le texte présenté l'a été par les membres élus, l'ensemble des membres élus. Et donc, c'était s'isoler encore un peu plus pour les États-Unis que de s'opposer à un tel texte. Donc les États-Unis ont, et puis les États-Unis, je pense, ont voulu envoyer un signal un peu fort vers Israël en s'abstenant.
Donc on a effectivement une volonté de la part des États-Unis de hausser le ton. Pourquoi, dans ces conditions, ne pas avoir voté tout simplement cette résolution?
Parce que ça, c'est la pratique des États-Unis sur les résolutions concernant le conflit israélo-palestinien. En général, ils s'abstiennent parce que, et on l'a vu dans les heures qui ont suivi, ils hésitent en réalité. Ils ont dit que la résolution n'était pas obligatoire. Donc on voit que ils se sont pliés à la volonté de la majorité, mais avec hésitation et en reculant. Donc l'abstention était un moyen de ne pas s'opposer à l'adoption de la résolution, d'envoyer un signal à Israël tout en ne s'engageant pas complètement et pleinement en faveur d'un cessez-le-feu.
Et alors, ce texte qui a été voté a été proposé par les membres non permanents du Conseil de sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui sont ces membres? Et alors, pourquoi donc cette procédure-là?
Les membres non permanents sont des membres élus. Il y a une élection tous les 2 ans à l'Assemblée générale, à bulletin secret, pour élire ces membres permanents qui tournent. Et donc, il y a une rotation qui se fait tous les ans, puisque c'est pas les mêmes membres qui sont renouvelés chaque année. On a tendance à les oublier, hein, puisqu'on regarde, quand on voit le Conseil de sécurité, on regarde principalement ce que font les membres permanents qui ont ce fameux droit de veto, mais ils ont un rôle essentiel puisqu'ils sont 10 et donc collectivement, ils peuvent avoir un veto collectif. Et ensuite, on a bien vu qu'à 10, ils pouvaient avoir un poids significatif et montrer dans un Conseil de sécurité divisé, où ce sont les membres permanents qui sont principalement divisés, que le Conseil de sécurité pouvait s'unir autour d'un texte et continuer à travailler. Hein. Je crois que ça, c'est très important. Et ils ont un poids et une visibilité de plus en plus importante.
Voilà, qu'est-ce qui va se passer maintenant ?
Alors maintenant, bien entendu, bon, une résolution n'est pas une baguette magique. Hein, donc derrière, il faut qu'elle soit
Elle n'est pas contraignante en réalité.
Si. Si, bien sûr que si. C'est l'article 25 de la Charte des Nations Unies qui dit que toute résolution du Conseil de sécurité s'applique à tous les membres de l'organisation. Donc, si. Maintenant, on est dans le domaine du droit international et donc il n'y a pas de bras armés automatique qui viendrait forcer les parties au conflit, les États concernés, à appliquer cette résolution.
Mais ce n'est pas la première résolution de l'ONU qu'Israël ignore.
Oui, ça c'est clair. Ça le fait depuis 1967.
Donc, étant donné qu'il y a eu des précédents, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui inciter Israël à respecter cette résolution alors que les précédentes ont, pour la plupart d'entre elles, été ignorées ?
Je suis d'accord. C'est-à-dire que derrière une résolution, il faut des pressions. Il faut des pressions des parties ayant un poids particulier par rapport aux contrevenants, hein, puisque la résolution s'adresse principalement à Israël, mais s'adresse aussi au Hamas pour demander la libération immédiate des otages. Il faut des pressions des principaux partenaires de ces acteurs. Et là, effectivement, on se dit que les États-Unis n'ont peut-être pas encore décidé de faire vraiment pression à l'égard d'Israël. Il suffirait de ne pas envoyer l'aide militaire. Ce serait déjà une première pression significative.
Bon, mais est-ce qu'on a des exemples justement de résolutions de l'ONU qui ont été suivies des faits dans ce contexte-là, dans un contexte de guerre, Alexandra Novoselov?
Par exemple, ce qui s'est passé, l'Irak de Saddam Hussein qui a envahi le Koweït. Dès le lendemain, il y a eu au Conseil de sécurité et dans les mois qui ont suivi, bien sûr, une série de résolutions pour d'abord condamner l'invasion, ensuite mettre des sanctions, décider d'un embargo sur les armes, décider de sanctions économiques, et dans ce cas-là, on est allé jusqu'à l'intervention armée. Donc il y a toute une gradation qui est prévue par la Charte des Nations Unies. Et bien entendu, en général, on commence par des sanctions économiques. On en est encore très loin pour ce qui est du conflit israélo-palestinien.
Oui, par exemple, une absence, comme vous le sous-entendiez il y a quelques instants, une absence de livraison d'armes qui pourrait tarir les moyens de faire la guerre. Alors, le Hamas a salué cette résolution. Bon, c'est lui qui, aujourd'hui, souhaite cesser la guerre. Tel Aviv, en revanche, a considéré que ce texte ne conditionnait pas le cessez-le-feu à la libération des otages. Et c'est ça, en fait, qui explique la volonté donc israélienne de ne pas en tenir compte, Alexandra Novoselov.
Oui, je crois que d'abord, Israël est toujours dans sa guerre et que donc, quels que soient les textes adoptés, elle ne veut pas être contrainte de quelque manière que ce soit. Maintenant, combien de morts faut-il encore pour que on réagisse, que la communauté internationale réagisse? Je crois que le décompte est à plus de 32 000 morts.
Oui, où est notre conscience qui apparaît désespérée. Qu'est-ce qui pourrait se passer maintenant? Alors, en imaginant que cette résolution ne soit pas suivie des faits, est-ce qu'il peut y en avoir une autre? Est-ce que celle-ci est déjà dans les limbes et pourrait bientôt être adoptée? Qu'en est-il?
Alors, d'abord, il est clair que le Conseil de sécurité continue à se réunir, à regarder ce qui se passe à Gaza, et si cette résolution n'est pas appliquée, il y en aura une autre sur la table. Il y a des pressions qui sont faites, et on peut espérer que les États de la région se saisissent de cette affaire pour faire pression, des pressions tous azimuts. Et je crois que là, il y a quand même urgence. Les gens meurent de faim dans cette enclave. Donc oui, il faut que la communauté internationale se réveille. Hein.
Merci beaucoup, Alexandra Novoselov. Je rappelle que vous êtes politiste. On vous doit notamment le Conseil de sécurité des Nations Unies entre impuissance et toute puissance aux éditions du CNRS. Dans quelques instants, avec Science, et bien par exemple avec Alexandra Delbo, elle nous parlera de la reine des fourmis.